Bonjour à toutes et tous, je suis Antoine.
Et moi Charlotte.
Bienvenue dans l'émission de rentrée de Radio B. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h pour un petit tour des émissions qui animent nos ondes. Un défilé d'hommes et femmes qui font vivre notre belle radio.
Avec nous en studio, Jean-Louis Tissot, Mathilde Duchosal et Céline Jacques.
Jean-Louis Tissot, bonjour.
Bonjour.
Vous animez le Gecko aime le jazz.
Le Gecko.
Le Gecko, autant pour moi. Le Gecko.
Alors par contre, beaucoup disent le Gecko parce qu'il a un cri qui ressemble un peu à ça. Mais c'est G-E, donc G-E en français, ça fait jeu.
Ok, bah merci pour l'info, je n'étais pas au courant.
Voilà.
Du coup, c'est quoi comme émission?
Alors, c'est l'émission de La Ferma Jazz. La Ferma Jazz, c'est le jazz club de Bourg-en-Bresse. Donc, on y parle essentiellement de jazz, bien sûr. Mais alors, je me refuse à faire un copier-coller des TSF jazz, des trucs comme ça. Et en fait, je reste dans le local, dans le jazz local avec les musiciens de la région. Avec bien sûr autour de la programmation de La Ferma Jazz et de tous ceux qui nous ont envoyé des CD par exemple et qu'on n'a pas pu sélectionner parce qu'on a plus de demandes que de concerts à pourvoir. Donc voilà.
Et pourquoi du coup des missions de jazz ?
Eh bien, l'émission de jazz, c'est pour faire la promotion de La Ferma Jazz, en fait. Je fais et la promo de La Ferma Jazz et la promotion des musiciens locaux, on va dire. Mâcon, Lyon, Bourg, bien sûr. Voilà.
Et pardon.
Un peu aussi sur le Nord, sur l'Ons, bon, mais pas beaucoup.
D'accord. Et du coup, comment vous choisissez un peu les artistes que vous faites passer dans votre émission ?
Alors ça, c'est un peu au feeling. Je fonctionne beaucoup au feeling. C'est-à-dire que l'émission, elle s'est structurée un petit peu au fil des années. Là, j'ai enregistré la 609, je crois, cette semaine. Demain, ce sera la 609, ouais. Demain, je vais recevoir Magali Fous, qui est une chanteuse de jazz qui va venir inaugurer donc cette saison 2023-24. C'est le premier concert, c'est ce vendredi, ce 29 septembre, à 20h30 à la Ferma Jazz. Voilà. Ouverture des portes dès 19h pour une petite restauration, pour ceux qui le souhaitent. Alors bien sûr, il faut réserver, c'est mieux. Et puis voilà, donc je fais la promotion de tout ça et je passe des extraits des groupes qui viennent nous voir. Avant chaque concert, donc je fais un plein feu sur le groupe à venir. Après chaque concert, je fais une petite touche de rappel. Je raconte un peu ce qui s'est passé. Et puis autrement, donc je fonctionne avec des esthétiques musicales. Ou alors il y a un musicien qui joue avec tel groupe. Comme je les connais un petit peu maintenant, donc je vais aller le chercher parce qu'il est dans un trio avec quelqu'un d'autre, je vais les chercher parce qu'ils sont dans un quintet avec d'autres musiciens, et puis je monte mon émission comme ça, en fait, voilà.
Ok, merci. Un artiste ou groupe de jazz à conseiller à nos auditeurs ?
Magali Fous, en duo avec Putinier, je ne sais plus son... Olivier, je crois. Je n'ai plus son nom en tête, mais voilà. Un contrebassiste, donc c'est le premier concert à la Ferma Jazz ce vendredi. Et la Swing Box dans 15 jours avec Didier Desbois, saxophone clarinettiste, notre pianiste local Laurent Darmon au piano. Voilà, donc.
Que du joli monde. Quand peut-on écouter l'émission, Jean-Louis ?
Alors, l'émission, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h. Généralement en direct, il arrive qu'elles soient enregistrées, et rediffusion le vendredi de 14h à 15h. Et bien sûr, sur le podcast, sur le www.radio-b.fr. C'est bien ça ?
C'est très bien. Merci Jean-Louis Tissot.
Mais je t'en prie.
Et que vive le jazz sur Radio B.
Et que vive le jazz sur Radio B, évidemment.
On reçoit maintenant Mathilde Duchosal, animatrice de l'émission Le Pas de Côté sur l'actualité. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
De quoi parle votre émission ?
Alors, comme c'est dit dans le titre, mon émission, je choisis un sujet d'actualité et j'essaye de le décaler, si possible avec un peu d'humour pour qu'on rigole un peu, même si c'est des sujets très sérieux.
Et pourquoi cette volonté de rajouter de l'humour à l'actualité ?
Parce que c'est vrai que l'actualité, souvent, on se dit « Non, c'est trop triste, ça me désespère, autant pas regarder. » Eh bien, c'est quand même important de se tenir informé, je pense. Et du coup, en mettant une petite touche d'humour, ça permet de relativiser des choses souvent qui sont plutôt pas très joyeuses, plutôt graves, qui se passent.
Le TGV Lyon-Turin, les émeutes, la sécheresse ou encore l'industrie textile, dans votre émission, vous avez parlé de différents sujets d'actualité connus ou moins connus. Est-ce que vous trouvez que les gens sont bien informés ?
Globalement, oui, bien sûr, parce qu'il y a la radio qui fait du très bon travail. Du coup, avec la télé, les journaux aussi, de manière générale, les gens s'informent et c'est vraiment important de s'informer. Du coup, et puis ça, qu'il y a tellement de sources en France, en tout cas, de façons de s'informer différentes, que je dirais que oui, du coup.
Avez-vous en tête une émission qui vous a marqué ?
Dans mes émissions à moi ?
Oui.
Ah bah, la toute première, j'étais tellement stressée de faire une chronique sur Radio B et j'avais choisi, c'était le décès de la reine d'Angleterre. Donc c'est vrai que pour rigoler, faire un petit pas de côté sur l'actualité, là, c'était plutôt sympa. Mais oui, j'ai pris d'autres sujets beaucoup moins faciles, comme notamment l'immigration ou les conditions des femmes en Iran, sur évidemment, j'ai beaucoup de sujets sur l'environnement. Et du coup, c'est vrai que là, c'est plus difficile de faire un petit pas de côté, mais c'est voilà, le défi que je me suis lancé et que je recommence cette année, je réitère l'expérience.
D'accord. Et un événement frappant cette année que vous n'avez pas mis dans votre émission ?
Oui, c'est vrai que des fois, je dois faire des choix. Du coup, j'ai beaucoup hésité, par exemple, ne serait-ce que la guerre en Ukraine, on en parle tellement tout le temps, de me dire est-ce que je mets un pied dedans, est-ce que je le fais pas. Et finalement, j'ai fini par le faire au 1 an. Du coup, ça faisait le sujet d'actualité, les 1 an de la guerre en Ukraine. Après, des sujets, non, il y en a plein que je n'ai pas traités, évidemment, mais là, comme ça, j'en ai pas qui me viennent en tête. Il y en a que je repousse de ne pas faire tout de suite, comme la réforme des retraites, j'ai mis quelques temps avant de la passer à l'antenne.
Bah, merci beaucoup, Mathilde.
De rien.
Je rappelle qu'on peut vous entendre les 2e et 4e jeudis du mois à 7h55, 8h55 et 12h55, et en rediffusion le samedi suivant à 10h.
Oui, tout à fait, c'est ça.
Céline Jacques, bonjour.
Bonjour Antoine, et bonjour à tous.
Après hashtag connectons-nous sur le numérique, vous animez la nouvelle émission de la culture à l'hôpital. De quoi ça parle ?
Alors, comme son nom l'indique, l'émission, la toute nouvelle émission de la culture à l'hôpital, c'est une émission qui parle des projets artistiques et culturels dans les espaces de santé, dans les établissements sanitaires et médico-sociaux, et qui va mettre le focus particulièrement sur le dispositif régional Culture et Santé, qui est un dispositif soutenu et financé par la région, la DRAC et l'ARS, donc pour soutenir alors, financièrement, mais aussi dans l'accompagnement des équipes, les projets culturels qui peuvent voir le jour dans les lieux de soins.
Pour la première, vous avez reçu la responsable du dispositif Culture Nomade au centre psychiatrique de Lain. Ils mettent en place de nombreux projets culturels. Ça sert à quoi la culture dans les établissements médico-sociaux ?
Ah, bah, je vous remercie pour cette question.
Ça me fait plaisir.
Ouais. Alors, la culture dans les espaces médico-sociaux et les espaces sanitaires, ça sert, je dirais, peut-être avant tout à la permanence du lien social. Parce que dans un moment de vie, on peut tous être hospitalisés, vivre une période difficile et être à un moment dans une institution. Et il n'y a pas de raison qu'on soit coupé alors de la vie locale, même plus globalement. Alors la vie culturelle en fait partie, mais il n'y a pas de raison qu'on soit coupé de la citoyenneté et du lien social. Donc c'est cette permanence en fait du lien social, du lien à la culture, donc aux pratiques culturelles, si je le dis plus concrètement, et à l'accès à la vie locale et à ce qui se passe sur son territoire.
Justement, certains projets sont créés par des résidents. En quoi ça change la vision du public sur la maladie ou le handicap ?
Alors, les projets culture et santé sont effectivement des projets de participation, c'est-à-dire que les artistes, les soignants, les accompagnants et les patients construisent quelque chose ensemble. Ils construisent alors une œuvre, au sens très très large du terme. En tout cas, ils construisent quelque chose ensemble et chacun participe. Ça change la relation, soignant-soigné. Ça change aussi la posture des uns et des autres, parce que finalement, dans ces moments-là, ce sont des hommes et des femmes, des humains. Donc ça ramène à l'humanité profonde de chacun, de chaque être et de chaque individu. Et puis, au-delà de ça, la culture dans les espaces de santé, ça met un petit peu d'étoiles dans les yeux et ça permet de se décaler aussi d'une situation qui peut être difficile à un moment de sa vie.
Beaucoup de choses, du coup. Quel message vous voulez faire passer aux auditeurs avec cette émission de la culture à l'hôpital ?
Alors, cette émission, c'est avant tout pour valoriser et montrer un petit peu ce qui se passe derrière. Alors, j'allais dire derrière les portes, mais ce n'est pas que derrière les portes, puisque les projets culture et santé, ils se vivent aussi sur les territoires, en lien vraiment avec les établissements culturels locaux qu'il y a sur les territoires. Donc, c'est montrer un petit peu ce qui se passe. Et toujours cette permanence du lien. Les personnes, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être nous demain, qui à un moment sont dans une institution, que ce soit pas invisible. Et par la culture, par les projets culturels qui se vivent dans les structures, mais aussi en dehors, ça permet de quelque part parfois de réhabiliter aussi cet accès à la culture et de réhabiliter une forme de dignité aussi, je dirais.
Je rappelle que l'année dernière, vous présentiez l'émission Hashtag Connectons-nous. Un petit mot pour Stéphane Leprince, qui reprend l'émission cette année.
Oui, alors, bonne chance et bonne continuation à lui pour la prise de relais, effectivement. L'émission Hashtag Connectons-nous, c'est une émission sur la médiation numérique, donc sur l'accompagnement des publics aux pratiques numériques. Et on reste malgré tout aussi dans quelque chose qui est de l'ordre de la solidarité sur cette émission-là, mais sur un autre volet.
Vous pouvez retrouver Céline tous les deuxièmes jeudis du mois en direct à 7h55, 8h55 et 12h55 et en rediffusion le dimanche qui suit. Merci Céline, à bientôt sur les bonnes ondes.
Merci.
Certains de vos animateurs et animatrices préférés ne peuvent malheureusement pas être présents ce soir. Notre cher collègue Perrine est parti les interviewer pour vous.
On part à la rencontre de Vincent Goussem.
Bonjour à toutes et à tous, je reçois Vincent, animateur de l'émission Les vrais amateurs du foot sur Radio B. Vincent, présentez-nous votre émission.
Bonjour Perrine, donc mon émission consiste tout simplement à recevoir des personnes qui œuvrent dans le foot amateur dans le département, au milieu de tout ce qu'on voit en ce moment à la télé qui œuvre pour l'argent et qui n'est plus du tout dans le plaisir de jouer au foot. L'objectif est vraiment de mettre en valeur le foot amateur par le biais des personnes qui œuvrent chaque week-end dedans.
Donc pour vous, pourquoi c'est si important de parler du foot amateur ?
Le foot amateur, c'est là que tout commence en fait. Tout joueur professionnel qu'on peut voir à la télé à l'heure actuelle a commencé dans le foot amateur. Ils ont commencé dans un petit club ou dans un club de village. C'est toujours comme ça. Et au final, sans le foot amateur, on n'aurait pas de joueurs professionnels et on ne serait peut-être pas champion du monde aussi à l'heure actuelle.
Comment vous trouvez vos invités ?
Alors, c'est beaucoup mon réseau perso. J'ai l'avantage d'être dans le milieu du foot amateur aussi, donc je connais quand même beaucoup de personnes. J'essaie de m'adapter à la fois au temps dans la saison, à la période de la saison. Et après, j'essaie aussi de cibler des clubs, que je n'ai pas envie de parler toujours du même club, je n'ai pas envie de parler toujours des mêmes rôles. J'essaie d'aller voir un peu à droite, à gauche. Après, ce n'est pas souvent évident. Le plus dur, c'est de trouver des invités qui puissent se libérer pour venir enregistrer avec moi. C'est le plus compliqué, en fait.
Et donc, vous êtes entraîneur ou joueur vous-même ?
Alors, je suis entraîneur de foot pour le club de CS Viria. Je n'ai pas arrêté de jouer, je joue si besoin, mais ma priorité reste de coacher.
Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'animer une émission de radio ?
C'est Alain Rude dans l'émission Le nez dans le guidon qui m'avait invité parce que il voulait parler des personnes qui allaient au travail en vélo, donc ce qui est mon cas de temps en temps. Il s'avère que la radio n'avait pas d'émission foot. Du coup, je me suis proposé. Et puis, Elodie a plutôt apprécié ce que j'ai pu montrer pour le début. Et donc, on a dit, c'est parti. Après, mon objectif, il était vraiment de mettre en valeur le foot amateur et d'être dans une notion de partage. Il y a des clubs qui fonctionnent d'une certaine manière, d'autres qui fonctionnent autrement. Il y a du bon de partout. Il faut s'inspirer de tout le monde, en fait. Il faut s'aider, tout simplement.
Donc, le cœur de votre motivation et de l'émission, c'est un peu aussi le plaisir sportif.
Avant tout, oui. Je fais ça parce que j'aime le foot. Je fais ça depuis que je suis tout petit. Et je veux en parler. Et après, moi, c'est surtout le fait qu'à la télé, on parle que d'argent. C'est le foot professionnel... me gêne. J'adore ça, je regarde pas des matchs à la télé, hein, loin de là, je veux pas mentir. Mais je préfère 100 fois coacher le week-end que regarder un match à la télé, en fait.
Mm-hmm. Voilà. Est-ce que vous avez un souvenir marquant d'une émission à nous raconter ?
J'ai accueilli Thomas Félix, par exemple.
D'accord.
Accueilli avant qu'il parte pour la Coupe du Monde de foot-golf, là, qui a eu lieu en juin. Et il s'avère qu'il a été champion du monde. Donc, c'est une petite anecdote. C'était marrant, c'est sympa de pouvoir accueillir des personnes qui, au final, derrière, réussissent.
Je vous remercie, Vincent, et à très bientôt sur Radio B.
Merci, Périne. À bientôt.
Je reçois Jean-Jacques Chavat.
Vous écoutez toujours l'émission de rentrée des bénévoles de Radio B. Avec nous maintenant, deux animatrices, Nathalie Rébillon et Marie Saron. Bonjour à vous.
Bonjour.
On va parler de votre émission 1901 sur 90. Elle est diffusée sur nos ondes le dernier jeudi de chaque mois à 11h et rediffusée le samedi suivant à 11h. Pouvez-vous nous présenter cette émission ?
Alors, j'y vais. Du coup, 1900 sur 90, la radio des assos. Une fois par mois, on invite une association en fait, à se présenter, à mettre un peu en lumière leurs activités, leur fonctionnement. On demande à la personne qui est en face de nous qui c'est, salarié, dirigeant, tout ça. Et puis, on leur demande de nous partager un petit peu une petite musique qui raconte pourquoi et qui parle aussi de leur actu. Et puis, il y a une autre partie.
Voilà, tout à fait. Il y a une autre partie, en général, c'est une petite chronique ou bien on reçoit un invité de marque qui va nous parler un petit peu de son activité, des services qu'on peut proposer au sein de la GLCA, hein, puisque nous aussi, on vient de la GLCA, donc Centre Ressources pour la vie associative et l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, c'est très lié aussi par rapport à l'émission. C'est un peu notre secteur d'activité principal. Donc, c'est important pour nous de valoriser les associations, de faire remonter un petit peu ce qui se passe sur le terrain. Et puis, l'engagement associatif, c'est aussi quelque chose d'important dans la société. Donc, pour nous, c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur de pouvoir valoriser. Et puis, ça repose tellement sur les personnes, sur les individus, sur leur motivation que c'est aussi important de les mettre en avant et puis de parler de toutes leurs actions, de tout ce qu'ils peuvent proposer.
Et d'où ça vous vient cette volonté de mettre en avant les initiatives locales ?
De par ce que disait un peu Nathalie tout à l'heure, de par notre métier et la GLCA, en fait, ses missions. L'idée, c'est de mettre en valeur les assos, les initiatives locales, ce que les gens y font, comment ils font qu'ils rendent meilleur en fait, la société ou qu'ils apportent peut-être les activités ou la culture où elles ne seraient pas. Et du coup, l'idée, c'est donc nous, notre rôle à la GLCA, c'est de les accompagner, mais également, du coup, avec les missions, en fait, on peut les mettre en valeur. Et on peut leur laisser la place. Elles n'iraient peut-être pas d'elles-mêmes à la radio. Donc là, nous, l'idée, c'est qu'on leur dit, on a ce créneau pour vous. Venez.
Dans l'émission, vous avez abordé des thèmes très variés comme spéléologie, écomobilité, handicap, musique. Une émission qui vous a particulièrement marqué ?
Hyper difficile.
J'allais dire la dernière qu'on a enregistrée, ouais. En fait, puisqui va être diffusée là jeudi. Je fais en même temps la petite promotion.
Bonne idée.
On a reçu en fait deux salariés de la DAPA qui font partie du collectif des aidants. de l'Ain. Et donc c'est un, alors c'est pas une association en tant que telle, c'est plutôt un collectif de structures médico-sociales ou médicales. Et c'est vrai que le fait de créer ce collectif, c'est aussi vraiment de venir en soutien aux personnes qui accompagnent un proche qui peut être malade ou en situation de handicap. Et c'est vrai que c'est très, très prenant aussi dans une vie d'accompagner quelqu'un qui est malade. Et c'est vrai que le collectif met en place aussi pas mal d'actions pour accompagner ces personnes-là et aussi pour les rendre visibles, puisqu'ils vont faire une rencontre bientôt à la MCC, là, en fin de semaine, pour justement rassembler toutes les associations qui font partie du collectif et organiser des temps de sensibilisation, des temps d'information autour des aidants. Voilà, donc c'est vrai que c'était intéressant. Intéressant de les recevoir dans notre émission.
Il y a juste, je crois qu'il n'y en a pas une qui nous marque le plus parce qu'elles ont toutes un truc différent, c'est des personnes différentes, c'est des assos différents, des projets différents. Elles nous marquent toutes, je ne sais pas laquelle. Mais c'est vrai que la dernière était sympa, mais c'est parce que c'est la reprise.
C'est la dernière dont vous vous souvenez en fait.
C'est ça, exactement. Non, ce n'est pas la dernière quand même.
Un argument pour donner envie aux gens de s'impliquer localement.
S'impliquer localement. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est faire vivre ton territoire, le rendre meilleur en fait, ce que tu as envie de faire. Si ça n'existe pas, il faut le créer. Et ce que tu as envie de partager, c'est ça en fait. Du coup, si toi ça te manque... partage-le et fais-le avec des autres, quoi. Je dirais ça. C'est pas un argument du tout, mais voilà.
Ouais, c'est c'était ça. Bien.
Ça fonctionne.
C'est donner vie à des idées, à des envies, en fait, c'est ça. Et puis de le partager avec d'autres, comme tu disais, Marie. C'est vraiment ça aussi. Et puis de devenir vraiment acteur, de pas être que dans la consommation de concerts, de tout ce qu'on veut, en fait. C'est vraiment de prendre sa part, en fait, sur le territoire et puis d'amener aussi des choses nouvelles, des choses parfois innovantes pour faire bouger tout ça et en direction de tous les publics en fait, aussi bien les jeunes que les seniors. Je crois que tout le monde peut être aussi acteur de son territoire, de sa ville.
Si un représentant d'association nous écoute maintenant, comment peut-il vous contacter?
Il y a plusieurs moyens, donc sur le site internet.
Oui, tout à fait. Ouais. aglca.asso.fr, un autre site où vous trouvez toutes les informations, tous les contacts pour nous trouver.
Sur la page Facebook.
On est aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Twitter.
On peut aller chercher les assos, ça nous arrive. Selon si on a personne qui nous a contacté, par exemple pour le mois d'octobre, on peut aller chercher selon leurs actus, tout ça. Mais du coup, si elles veulent venir vers nous, c'est encore mieux. Parce que du coup, ça nous permettra d'en avoir plein d'avance, quoi.
Ça vous mâche le travail, quoi.
Ouais. J'ai pas osé le dire, mais c'est ça.
Oui, voilà, donc un petit appel. Osez nous contacter. Oui.
N'ayez pas
si
peur.
Si vous avez des choses à venir raconter à la radio, si vous avez un événement, si vous avez une action aussi, où vous avez besoin de toucher du public, c'est vrai que notre émission est un bon relais aussi pour se faire connaître localement, pour trouver des nouveaux publics, pourquoi pas des bénévoles. L'antenne est vraiment ouverte aussi pour ça et voilà, c'est vraiment pour aussi dynamiser et aider les associations.
Marie Sarron, Nathalie Rébillon, merci. On vous retrouve très vite sur nos ondes.
Merci à vous.
Merci.
On retrouve tout de suite Perrine. Elle est allée à la rencontre de nos animateurs et animatrices qui n'ont pas pu être là ce soir.
Je reçois Jean-Jacques Chavanne qui anime deux émissions sur notre antenne. Je me souviens, je me rappelle et des femmes, des hommes, des droits. Est-ce que tu peux nous décrire en une phrase chacune de tes émissions?
Eh bien, je me souviens, je me rappelle, c'est vous avez un souvenir qui a marqué votre façon de voir les choses dans la vie. Venez nous en parler. Et des femmes, des hommes, des droits, c'est autre chose, c'est-à-dire que cette émission que j'ai faite pour la Ligue des droits de l'homme, l'interlocuteur vient me parler d'un sujet, ou les interlocuteurs qui concernent les droits de l'homme.
Comment est née ton envie de radio?
Il y a très longtemps, j'étais responsable d'une radio locale à Chalon-sur-Saône. C'était au début des radios locales. Et donc après, j'ai changé ma trajectoire professionnelle, mais j'ai toujours conservé en moi cette envie de radio. J'ai toujours aimé communiquer, poser des questions, être avec les autres et curieux de connaître et de savoir, en fait.
Alors, tu es d'ailleurs engagé dans de nombreuses activités en Bresse, comme ABCDE, la Ligue des droits de l'homme, comme tu l'as dit. Oui. Tu es aussi élu à Montrevel. D'où vient ton engagement citoyen ?
Je suis assez intéressé par la vie sociale, par l'autre, en fait. Je suis motivé par tout ce que je pourrais apprendre des autres, de ce qu'ils font, connaître mieux notre vie, notre environnement, notre société, défendre les droits de l'homme, qui est important.
Et qu'est-ce que tu cherches à transmettre à travers tes émissions ?
D'abord, je suis assez curieux de connaître et de savoir, et j'espère que ce que j'apprends, eh bien, ça sera diffusé, que ça amènera de la connaissance aux autres. Souvent, quand on ignore tout de l'autre, donc on peut en avoir peur, hein, et on peut être amené donc à avoir des propos qui viennent d'une certaine ignorance, et quand on connaît mieux les personnes, les problématiques, eh bien, on est amené à être peut-être plus tolérant, plus ouvert. Voilà, la connaissance amène toujours, donc améliore les relations humaines, je dirais.
Ouais. Merci beaucoup Jean-Jacques pour ce moment et cet échange.
Merci à toi.
Okay.
Vous êtes toujours sur Radio B, on reçoit deux nouvelles animatrices, Anne Autissier et Christine Fusarelli.
Bonsoir. Anne Autissier, bonjour.
Bonjour.
Présentez-nous en une phrase votre émission Electric Boogaloo Story.
Alors, Electric Boogaloo Stories, c'est 5 minutes, voire 7 minutes avec la musique, consacrée à un album de bande dessinée qui m'a plu. C'est très, très, très subjectif, en fait. Il ne s'agit pas de faire la promotion de nouveautés, mais à travers mes goûts personnels, de parler de ce merveilleux art qui est cette forme de lecture.
Et quelle place a la BD dans votre vie ?
Eh bien, elle a une place importante, même si je ne suis pas une lectrice très intense. Mais en tous les cas, c'est une découverte que j'ai faite, disons, à l'âge de 12 ans, qui a commencé par la bande dessinée américaine fantastique et qui donc m'éloignait de la bande dessinée familiale. Donc, c'est devenu mon univers propre lorsque j'ai découvert, en fait, Alex Raymond, Lee Falk et Phil Davis, donc Flash Gordon et Mandrake le magicien. Puis ensuite, j'ai glissé vers la bande dessinée franco-belge.
Est-ce que vous pouvez nous citer une BD qui vous a marqué dans votre vie ?
Une BD qui m'a marqué, donc je dirais que j'aime beaucoup actuellement le label 619, en fait, et Puta Madre. Donc, j'espère ne pas me tromper sur les noms des auteurs parce que je ne les ai pas sous les yeux. Mais en tous les cas, c'est une bande dessinée qui est sous la forme d'un comics. Pourtant, c'est français. Et en fait, c'est absolument extraordinaire parce que c'est une bande dessinée qui est l'histoire d'un jeune Mexicain qui, à l'âge de 9 ans, se retrouve en fait enfermé en prison. Parce que dans le cadre de la loi américaine, en fait, on peut enfermer des enfants. Et donc, non, je crois qu'il est... enfin bref, il se retrouve plusieurs années durant accusé du meurtre de son petit frère, donc en prison. Et là, c'est l'histoire de sa vie et l'histoire au fait de la condition latino-américaine en Californie du Sud. Et j'ai trouvé ça absolument stupéfiant sur le plan graphique et les personnages sont extrêmement touchants et c'est très puissant sur le plan documentaire.
D'accord, mais c'est une BD à découvrir. Alors.
Oui, tout à fait. Je la conseille vraiment extrêmement vivement. Extrêmement vivement. J'aime beaucoup employer ces deux mots. C'est bien lourdingue, mais bon, ça veut bien dire à quel point elle est absolument extraordinaire.
Transposer la BD à la radio, c'est un exercice particulier. Comment vous vous y prenez ?
Alors... Je lis la bande dessinée, je la laisse reposer, si je puis dire. C'est, moi, je dirais qu'il y a 3 étapes. Alors, la première étape, c'est évidemment de lire la bande dessinée, de la lire et de la relire, en fait, pour à la fois éprouver un plaisir personnel et éprouver un plaisir professionnel. Le deuxième stade, c'est d'écrire dans un cadre qui est celui de cette émission et matériellement, ça représente une page à 4. Donc, je dois écrire une page à 4 en taille 11 ou 12, peu importe, enfin plutôt Arial Naro. Donc, je structure donc le texte toujours de la même façon. C'est-à-dire que, bon, bien évidemment générique, mais après, une sorte d'appel par rapport à l'actualité. Donc, pour ensuite créer une transition vers l'album à travers le thème dont il est question. Puis ensuite, je passe donc au pitch. Et ensuite, je fais une rapide critique pour terminer par la musique. Et donc, à ce moment-là, je fais aussi un montage sonore pour que même si ça ne dure que 5 à 6 minutes, en fait, il y ait une sorte de rythme. Parce que je dois pallier le fait qu'une émission, pour moi, sur la bande dessinée, enfin, telle que je l'ai fait avant, quand je faisais Electric Boogaloo, donc, que je ne fais plus maintenant, c'était 30 minutes avec un partenaire et Maxime Mott. Mais je fais maintenant seulement 5 minutes seul. Il faut qu'il y ait effectivement du rythme, que voilà, ce soit une forme de divertissement, mais en même temps, je dirais un plaisir partagé parce que la BD, c'est de l'art.
D'accord. Des sorties BD que vous attendez avec impatience ?
Eh bien, j'attends encore... Enfin, j'attends... ce chat détective. Comment s'appelle-t-il ? Ah, oh, crotte.
Pas dire crotte à la radio.
Oh, pardon. Excusez-moi. C'est crotte seulement.
C'est gentil, quoi.
Donc, en fait, Black Sad. J'attends effectivement l'album de Black Sad qui devrait sortir en fin d'année parce que j'adore ce que fait son auteur. C'est un dessinateur remarquable, Guarnido, je crois. Et donc, voilà. Et puis, un album de Marini, Les Aigles de Rome, le tome 6, qui est attendu maintenant depuis 6 ans. Voilà.
Ben merci Anne, on vous retrouve.
Merci à vous.
Excuse-moi. On vous retrouve très vite sur nos ondes. Je rappelle que votre émission est diffusée le 3e lundi du mois à 7h55, 8h55 et 12h55.
Merci.
On passe à Christine Fusarelli de l'émission Ça manque pas de poésie. Bonjour Christine.
Bonjour.
En une phrase, présentez-nous votre émission.
Eh bien, c'est une émission qui cherche à promouvoir la poésie, qui est un peu parfois le parent pauvre de la littérature, donc la faire entendre et en même temps trouver des musiques qui la mettent en valeur, qui vont un petit peu avec les textes que je choisis, avec les textes d'auteur. Voilà, donc c'est une émission mensuelle d'une heure.
Comment vous choisissez les auteurs que vous allez faire découvrir à nos auditeurs chaque mois ?
Alors, c'est très varié. Ça peut être des gens que je connais depuis longtemps, des gens que j'ai découverts comme ça, au hasard d'un achat d'un recueil. Parfois, je me concentre sur un seul recueil et j'essaie de dire un maximum de titres de ce même recueil. Parfois, je fais ça autour d'un auteur. Ça peut être aussi autour d'un thème. C'est très variable. Ça dépend de mes envies, en fait.
Vous n'avez pas de plan fixe ?
Non, pas de plan fixe.
Vous parlez à quelqu'un qui ne lit pas de poésie. Comment vous lui donnez envie ?
C'est l'éternel problème, oui, parce que parfois les gens ont un souvenir plutôt désagréable de la poésie apprise à l'école primaire et récitée devant les copains, voilà. Comment donner envie ? Je ne sais pas. Moi, je dirais que la poésie, comme la musique, ça aide à vivre. Et que quand on regarde le réel autour de soi, et notamment le monde dans lequel on vit, il y a des moments où on peut être complètement désespéré. Et quand on trouve la beauté dans les mots et dans la musique, eh ben, ça permet de vivre malgré tout. Voilà. Alors, il y a plein d'autres thérapies possibles là, que la poésie, mais pour moi, c'est ça. Et je pense que pour certaines personnes, ça peut être ça aussi.
Ça rejoint un petit peu ma question suivante. Ça vous vient d'où, cet amour pour la poésie ?
Ben, ça vient de... Je pense que je devais déjà aimer ça quand j'étais petite, mais pas vraiment, enfin, pas spécialement la poésie. J'aimais bien les mots en général. Mais ça vient de la rencontre, je pense, avec un poète qui est décédé maintenant et qui était de la région, Gabriel Le Gall, et qui m'a vraiment fait découvrir à travers sa poésie quelque chose que je ne connaissais pas. Voilà, ça m'a donné envie de la lire, de la dire. On faisait ensemble des lectures poétiques et je pense que ça... Moi, je me dis que les gens qui ne vont pas spontanément vers un recueil de poésie peuvent très bien être touchés quand ils l'entendent. Et c'est un petit peu ce que j'essaie de faire à travers ces émissions de radio et puis aussi à travers des lectures de temps en temps. À ce propos, si je peux me permettre,
vous pouvez.
Pour les amateurs de poésie, ce jeudi, donc 28 septembre, au Temps des Noyaux, bar associatif. Il y aura une lecture poétique donc, que j'ai organisée autour d'une poétesse polonaise qui s'appelle Wisława Szymborska, qui n'est pas connue tellement en France, qui est morte en 2012, qui a été quand même prix Nobel de littérature, donc avec une certaine reconnaissance. Et cette dame-là, elle me plaît beaucoup parce qu'elle écrit avec beaucoup d'espièglerie sur des sujets souvent assez difficiles, comme le sens de la vie, la mort, voilà, des choses qui nous touchent tous. Mais elle le fait avec beaucoup de malice. Alors, si je peux me permettre, je peux vous lire un petit texte d'elle ?
Très, très rapidement.
Très rapidement.
Ouais.
Très rapidement, justement, alors c'est rapide. Alors ça s'appelle Curriculum Vitae. Que faut-il ? Il faut écrire une requête et joindre son curriculum vitae. Quelle que soit la longueur de la vie, le CV se doit d'être court. On est prié d'être succinct et de trier les faits, transformer les paysages en adresses et souvenirs confus en dates sûres et certaines. De toutes les amours, suffit le conjugal et parmi les enfants, ceux qui sont nés vraiment. Seuls ceux qui te connaissent, pas ceux que tu connais. Voyage, si à l'étranger, appartenance à quoi, sans pourquoi, distinction, sans à quel titre. Écris comme si tu ne t'étais jamais adressé la parole, et t'évitais plutôt. Tu peux omettre chien, chat, oiseau, souvenir de pacotille, ami et rêve. Prix plutôt que valeur, titre plutôt que teneur, pointure de chaussure plutôt que où il va, celui pour qui tu passes. Joindre une photo avec une oreille bien visible, c'est sa forme qui compte, non pas ce qu'elle entend. Et qu'entend-elle au juste ? Le ronflement des machines à broyer du papier.
Merci. Quelle douceur. Merci Christine.
Merci à vous.
Continuez de faire vivre la poésie et à très bientôt.
Bientôt.
Radio B.
Radio B.
Radio B.
Vous écoutez toujours l'émission de rentrée des bénévoles de Radio B. Avec nous maintenant, deux animateurs, Cynthia et Rémi Arnaud.
Salut.
Salut.
Salut à vous. Alors, vous animez les premiers mercredis de chaque mois la parentèle enchantée.
C'est ça.
Dites-nous en plus.
Alors, la parentèle enchantée, ça fait quoi, Cynthia? 5 ans maintenant?
Ben ouais. 5 ans, ouais,
c'est la cinquième année.
Un nom de loup.
Et au début, c'était un petit quart d'heure et c'est devenu une demi-heure avec des chroniques, des musiques qui rythment un peu notre vie, des mots d'humeur. Voilà, on essaye de passer un peu notre vie de famille au mixeur et ça donne la parentèle enchantée.
C'est ça ce que j'allais dire. Ça parle de parentalité, mais décomplexée. Pas en mode conseil ou autre. On n'aime pas bien ça. Donc voilà, c'est notre quotidien et d'autres petites choses qui viennent agrémenter.
C'est vrai qu'avec avec les deux filles, donc là il y en a une, si on entend des petits gouzi-gouza, c'est Zoé. Hein. Oui, voilà, oui, voilà par, Zoé. Par exemple. Voilà. Oui, c'est un morceau de pizza, Zoé. Voilà, donc c'est joie du direct. Alors quand on enregistre la parentèle enchantée, bah, on parle de ce genre un peu d'événement. Oui, c'est une olive.
Bah, je pense que vous avez bien fait d'emmener vos enfants ici.
Voilà, ça
montre aux auditeurs.
Ça permet de donner distance. Le ton. Alors quand on enregistre, on n'a pas les filles dans les micros. Mais voilà, donc ça donne un peu une émission comme ça qu'on essaie de rendre plein de vie.
Ah, vu que vous êtes tous les deux parents, vos chroniques ont-elles fait évoluer votre vision de la parentalité ou de l'éducation de vos enfants?
Je sais pas si les chroniques ont fait évoluer notre vision. Alors après, forcément, on essaie quand même d'écrire pas que des bêtises, donc des fois on se documente un petit peu quand même. On est bien partisans du fait qu'on ne suit aucune règle à la lettre, donc voilà, on s'inspire de plein de choses. Après, on apprend à être parents au fur et à mesure que nos filles grandissent, donc forcément, on évolue aussi. On raconte peut-être pas la même chose aujourd'hui que ce qu'on racontait au tout début de l'émission il y a 5 ans.
Et puis c'est vrai qu'après le fait d'en discuter quand on prépare l'émission, on se pose des fois aussi des questions sur ce qu'on fait, ce qu'on fait pas. Et on écrit, puis en même temps, à la limite, des fois on fait presque une psychanalyse sur nos filles, sur nous-mêmes, pendant qu'on écrit quoi quand même, en disant tiens, j'avais pas pensé à ça, mais au moment où je l'écris, eh ben, je réfléchis, je le pense. Et par exemple, oui, Lou, elle écrit.
Voilà. Donc, Lou écrit, hein, donc ouais. C'est très important pour elle. Elle apprend, elle progresse chaque jour.
C'est ça. Non, mais qu'est-ce que je voulais rajouter à ça? C'est que, des fois, on c'est aussi libérateur. C'est-à-dire que des fois, il y a certaines choses qu'on ne dirait pas comme ça. Et qu'en l'écrivant, bah, voilà, ça passe. Ou alors, des fois, même entre nous, on se dit « Ah, mais tiens, mais toi, tu vois le truc comme ça, en fait ?» Sur des trucs qu'on n'aurait peut-être jamais parlé,
ouais,
sinon...
Des choses, on ne débat ça, pas. Mais cool, le fait d'en faire une émission radio, bah, on débat de ces choses-là. Et c'est libérateur.
C'est ça.
Quand on vit une semaine assez effroyable, et là on se dit mince, c'est la fin du mois, faut écrire. Là, il y a l'émission de radio qui approche, le sujet arrive assez vite et ça fait du bien en fait, des fois, de lâcher ce qu'on a sur le cœur, sur nos enfants, qu'on n'oserait pas dire autrement. C'est de l'ordre de la thérapie. Hein.
Ouais, c'est ça. C'est notre thérapie de couple à nous, enfin notre thérapie de parents, allez, on va dire.
C'est important. Un conseil rapide à donner à nos auditeurs et auditrices sur le fait d'être parents.
Ne suivez aucun conseil.
Ouais, c'est ça. Le seul conseil, c'est de ne pas en suivre. Ah non, sinon, c'est on a ça. Été dépassés. Ça nous a fait. Ça nous a bien embêtés, quoi, les conseils à la con. La grand-mère, la tante, la machin, la copine qui a eu des enfants. Bah, en fait, non. Chaque parent est différent. Chaque enfant est différent. Quoi.
Ouais, laissez-vous porter par ce que vous ressentez. Souvent, on est dans le juste quand on est comme ça. Ouais. C'est un peu notre devise d'émission. On est le meilleur parent possible pour ses enfants et souvent les plus indignes pour les autres.
Moi, j'aime bien rajouter que tous les parents parfaits ont au moins un enfant dans le congèle. Quoi. C'est...
pour moi, c'est logique également. Celle-là, mais c'est cadeau.
Ouais. Bon, je la connaissais avec deux enfants dans le congèle.
On a un petit congèle, en fait.
Ouais,
on congèle pas beaucoup.
Je vous en dépeindrai un, si vous... Une émission qui vous a marqué?
Oui, j'en ai une. On a fait une émission sur notre parcours PMA. Voilà, parce que nos filles ne sont pas arrivées comme ça, on va dire. C'est une émission qui nous a marqué parce qu'on l'a un peu... En fait, on a écrit des tout petits bouts à chaque rendez-vous. Et puis à la fin, on a fait une grosse émission. On a un peu remis tout ça. Je sais pas ce que t'en penses,
Camille. Ouais, je pensais exactement aussi, hein. À la ouais. Même aussi.
Ouais, je pense,
ouais. Parce qu'elle décrit, en fait, donc l'émission en général, elle décrit notre évolution en tant que parents. Mais pour le coup, cette émission-là sur la PMA, elle a décrit en fait notre évolution en tant que parents qui attendent un deuxième enfant et pour qui c'est compliqué en fait d'avoir un enfant. C'est pas on claque dans les doigts et ça arrive quoi.
Et puis on va dire qu'elle est venue remplacer une émission qui aurait dû arriver 6 mois plus tôt, qu'on avait commencé à écrire sur l'annonce du deuxième. Et ma foi, bah, l'annonce du deuxième, il a fallu la reporter un petit peu, il y a quelques mois. Et donc du coup, bah, pareil, libérateur de faire cette émission sur la PMA, de balancer un peu des tacles, parce que ça se passe très bien, hein, le parcours PMA, mais de balancer des petites anecdotes sur qu'est-ce que c'est que ce parcours. Voilà. Donc ouais, celle-là, c'est l'émission qui nous a bien marqué, ouais.
Puis,
c'est
après,
sûr.
Puis après, en général, les quelques émissions qu'on a fait autour de la préparation à la naissance, aussi avec les rendez-vous à l'hôpital, à la maternité, je trouvais ça intéressant aussi, quoi, parce que ça ouais, permet de... On dirait qu'à Bourg, on a quand même eu de la chance d'être accompagné à ce niveau-là,
ah oui, oui.
Au niveau de la maternité, quoi.
Rémi, vous oui. animez en plus tous les mardis à 21h l'émission Vivant comme un noyau. Alors, c'est quoi cette émission ?
Eh bien, alors, c'est quoi ? C'est. Alors, je ne veux pas dire que c'est un ovni parce qu'on serait complètement nul. Mais il y a des bars, il y a de la musique. Et à Bourg-en-Bresse, on a la chance d'avoir un bar associatif qui est ouvert quelques jours par semaine et qui est ouvert notamment tous les mercredis, heure fixe, de 19h30 à. Enfin, de 19h à 23h, enfin, voire un peu plus. Et donc, chaque mercredi, il y a un artiste ou un groupe qui vient se produire, qui propose de la musique, qui propose un concert, des scènes ouvertes aussi de temps en temps. Et moi, je suis tombé amoureux de ce lieu, parce que je trouve qu'il se passe énormément de choses, il y a de la vie, il y a des rencontres. Et donc, pendant quelques mois, j'y étais régulièrement et je me suis dit, il faut faire quelque chose quoi, avec ce lieu. Il y a du live, il faut que ces concerts live, on puisse les enregistrer, on puisse les diffuser à la radio. Et enfin, moi, j'étais fan de l'émission Pollen, les copains d'abord, sur France Inter avec Jean-Louis Foulquier. Et je me suis dit, voilà, je veux que cet esprit-là puisse être transposé sur Radio B. Et donc, des fois, on a des groupes. Alors, je l'avoue, hein, c'est pas vraiment ma tasse de thé, mais j'essaye quand même parce que ça montre aussi une certaine diversité musicale. Quand on a de la chanson française, on peut passer juste après à de la contrebasse plus voix. On peut passer à du jazz, on peut passer à du rap. Donc il y a vraiment, d'une semaine à l'autre, il y a une grande diversité. Parfois, il y a des reprises aussi. Des fois, il y a des artistes locaux ou des gens qui s'essayent à la musique. Et ben, on leur donne aussi le micro. Ils sont enregistrés et du coup, c'est diffusé. Donc le mardi soir, voilà, on a une demi-heure. Généralement, ça fait quoi ? 5, 6, 7 titres pour découvrir justement cet artiste. Ça me permet aussi des fois de placer un petit mot d'humeur, de décrire le lieu, de décrire l'ambiance, de réagir. Un petit point d'actualité, présenter aussi l'artiste quand c'est des groupes un peu plus importants.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre temps des noyaux ? C'est quoi votre ressenti quand vous êtes dans ce lieu ?
Ah, c'est... Alors, c'est pas un moment hors du temps, hein, mais j'y vais déjà, je me vide un peu la tête. C'est en milieu de semaine, on a toujours besoin de se couper un petit peu. Et puis là, la bière et le vin sont pas chers, faut le dire. Voilà, c'est déjà ça. Et puis non. Et puis il y a toujours de la découverte. Ouais, c'est le temps des noyaux, c'est un temps... C'est un temps hors du temps, en fait. Et on découvre des choses, on y va, on découvre forcément quelque chose. Il y a forcément quelque chose à découvrir. Donc, mon temps des noyaux à moi, c'est... Alors, il y a les concerts de Lounel. Il y a un concert de Lounel qui m'a vraiment hérissé les poils. C'était une scène ouverte il y a 2 semaines, je crois. Elle a fait 3-4 titres. Et c'était impressionnant, quoi. Ouais.
D'accord, donc un lieu à conseiller à Bourg-en-Bresse.
C'est un lieu à conseiller. Et dans le générique, d'ailleurs, le générique de fin, c'est les Crieurs de Lune. Ils ont fait un peu une impro au temps des noyaux et du coup, ils donnent l'adresse. Donc, c'est le 14 rue Hébrard, voilà. Au 14 rue Hébrard, on pousse la porte d'un nouveau monde. Et il y a de ça, ouais, il y a de ça. C'est-à-dire qu'il y a des chaises de guingouaille et des tables en formica. Mais on est bien.
D'accord. Une découverte musicale que vous souhaitez partager avec nos auditeurs ?
Découverte, il y en a plein. Il y en a plein. Je ne sais pas si je pourrais en citer une comme ça. Il y a peut-être les Crieurs de Lune, que j'avais bien aimé, justement, qui fait le générique. Il y avait Grand Camino. Alors, Grand Camino, c'est assez drôle. C'est un groupe qui est de Nancy, qui est venu ici faire sa tournée. Et puis après, on discute et il se trouve que la chanteuse de Grand Camino, elle me dit « Ah, ben moi, je suis de Lorraine. » Je dis « Tiens, moi aussi. » Je dis « Où ?» Elle me dit « Ah, ben de Moselle. » Je dis « Tiens, moi aussi. » Elle me dit « D'une petite ville, c'est Thionville. » Je dis « Ah, ben c'est drôle, j'allais au lycée. » Elle me dit « Ah, tiens, t'étais quel lycée ?» Et on se rend compte qu'on était dans le même lycée. Alors, un an d'intervalle, genre j'étais en terminale, elle en première, et du coup, on s'est forcément croisés, du coup, à ce moment-là. Donc, il y a des petites connexions qui se font. Et dans la musique aussi, ouais, c'est des petites choses, des petites parentés. Et Grand Camino, ça a été une découverte. Et on peut d'ailleurs réécouter ça en podcast sur le site de Radio B. Tout est disponible.
D'accord. Bah merci, Cynthia et Rémi. C'est l'heure pour vous de retrouver vos vies de parents.
Oui, tout à fait. Les filles, on y va.
On a entendu ça.
Elle était bien au studio, de notre vie familiale dans les oreilles, nos chers auditeurs.
Ça fait partie de la vie des parents.
Voilà.
Merci beaucoup.
Bonne soirée, merci.
On écoute maintenant Perrine avec Thomas Grosstête et Rémi Pascal pour le plat de résilience.
Pour Radio B, Rémi Pascal et Thomas Grosstête mettent le nez dans nos assiettes. Thomas et Rémi nous proposent une émission qui interroge notre rapport à la nourriture, ce que l'on mange, comment et pourquoi. Thomas et Rémi, bonjour.
Bonjour.
Comment a débuté votre aventure radio ?
Eh ben, par l'envie de vulgariser certains enjeux, certains sujets autour de l'alimentation et de l'agriculture. Donc j'ai pu faire une formation à Radio B où Thomas est venu pour être interviewé en guise d'essai pour tester un peu les interviews, écrire du texte. Et puis ça nous a tous les deux donné envie de faire un podcast. Et donc on a écrit une première émission qui a été diffusée. Et après, ben, on est parti pour toute l'année.
La suite arrive.
Donc vous abordez un thème différent dans chaque émission ?
Il y a un thème, donc un fil rouge finalement global qui est de manière très générale l'agriculture et l'alimentation. Et l'objectif, c'est de le décliner, ce thème, en une suite logique de plusieurs podcasts qui vont porter sur différents sujets, mais toujours en lien avec l'agriculture et l'alimentation.
On veut expliquer comment construire la sécurité alimentaire d'un pays comme la France demain. Et donc pour ça, bah, un premier volet d'émission qui va parler de notre histoire, notre contexte agricole, d'où elle vient. Ensuite, ben, quel est l'état aujourd'hui de notre modèle alimentaire ? Et ensuite, le dernier volet, ce sera consacré aux solutions et la partie un petit peu plus politique.
Il y aura des podcasts sur des sujets scientifiques techniques, sur les sols par exemple, la biodiversité, ce genre de choses. Et puis aussi un état un peu plus politique, territorial, au niveau des politiques publiques, ce genre de choses.
En deux mots, que souhaitez-vous transmettre avec Plan de Résilience ?
Eh bien que la première des choses, c'est que l'agriculture et l'alimentation, c'est quelque chose d'important qui construisent les sociétés. Que ça ne s'est pas construit en un jour, c'est un long héritage de 12 000 ans. Et donc le principal message, c'est que notre sécurité alimentaire, elle est fragile. Et donc pour la pérenniser, il va falloir qu'on mette beaucoup de choses en place et qu'on se re-questionne sur certaines manières de consommer, de produire. Voilà, je pense que c'est ça l'objectif. Construire une résilience, donc qu'on soit capable demain de se nourrir quoi qu'il arrive. En fait, je suis bénévole dans une association qui s'appelle les Greniers d'Abondance et qui souhaite justement éclairer le débat au niveau politique dans le pays. Bah, comment construire la résilience alimentaire, donc comment on construit notre capacité à nous nourrir demain. Et j'aime beaucoup cette association, vulgariser ces enjeux-là. Et comme il me semble hyper important, ben, allons les diffuser sur les ondes.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Élodie et je prends l'antenne avec moi en studio, Florine Siléné et Dominique Chapelle. Bonjour.
Bonjour tout le monde. Bonjour.
Alors un format d'émission pour nous donner des astuces et des conseils bien pratiques, c'est la minute de l'UFC que choisir de l'un. Dominique Chapelle, bonjour.
Bonjour Élodie.
On connaît tous l'UFC que choisir de nom, mais peut-être pas assez précisément. Est-ce que vous pouvez nous redonner les contours de cette association ?
L'UFC que choisir de l'un, c'est une des associations dites locales qui fait partie de l'Union fédérale des consommateurs à l'échelle nationale. À l'échelle nationale, il y a de mémoire entre 130 et 140 associations locales sur tout le territoire. Le territoire, c'est la métropole et le département et le territoire d'outre-mer.
Et quels sont les objectifs, les valeurs de cette association ?
Alors, quand on parle d'UFC que choisir, on entend surtout consommation. Donc, un des premiers objectifs, c'est d'aider les consommatrices et consommateurs à bien naviguer dans ce monde un peu particulier et qui souvent cause pas mal de problèmes. Mais c'est aussi des représentations dans toutes les instances. Alors, les instances, c'est les instances d'une commune, les instances hospitalières notamment. Et avec tous les problèmes qu'il y a actuellement en matière médicale, l'UFC que choisir tient à être présenté dans les hôpitaux et les cliniques. Et on trouve des représentations à l'hôpital Fleuria et à la clinique Convert pour parler des plus proches, mais aussi dans différentes instances hospitalières de tout le département.
Alors ici, vous animez un temps d'antenne, une minute. Quels sont les objectifs de vos émissions ?
Comme je disais tout à l'heure, c'est un monde un petit peu sauvage, la consommation. Il s'agit surtout d'informer les personnes qui nous écoutent des choses à faire et à ne pas faire. Et c'est très compliqué, tant et si bien que souvent ça se traduit par, pour l'UFC que choisir de l'un, par des litiges à traiter dans tous les domaines de la consommation, en allant de la banque à l'assurance, en passant par les artisans ou les commerçants d'électroménager par exemple.
On a entendu de nombreuses émissions de votre part. Quels pourraient être les thèmes abordés prochainement ?
Eh bien, le mois prochain, ce sont les arnaques. Il faudra bien écouter. Les arnaques bancaires, les arnaques au SMS, les arnaques au mail, les arnaques de la CAF, les arnaques à la sécurité sociale, les arnaques pour les formations. Je les passe parce qu'il y en a tellement que les arnaqueurs sont sans limite quant à leur imagination.
Alors, quand on vous écoute, on imagine que c'est très technique d'être bénévole à l'UFC Que Choisir et encore plus d'animer une émission à ce propos. Comment vous construisez vos émissions ?
L'UFC me donne un thème, me donne quelques idées, je mets tout en forme et pour répondre parce que par la suite il peut y avoir des questions qui sont transférées à l'UFC Que Choisir sur le thème de l'émission et on a toutes les références juridiques et on bénéficie à l'UFC Que Choisir d'un outil juridique, soit en ligne, soit on est en lien direct avec des juristes pour répondre aux questions des personnes qui ont écouté l'émission. Mais c'est pas forcément bien facile et on est tous spécialisés dans un domaine.
L'UFC Que Choisir de l'Ain, c'est aussi un service au service des auditeurs, des auditrices, des habitants de la région, en tout cas du département. Où est-ce qu'on vous trouve
À la Maison des Associations, à la GLCA, tout simplement. Et on peut nous retrouver soit via le site de Radio B, à chaque fois le numéro de téléphone et l'adresse internet est donné, soit directement sur le site a1.ufcquechoisir.fr. C'est vraiment très simple. Et la secrétaire Fabienne, adorable.
On lui passe le bonjour.
Je lui passe aussi.
Dominique Chappelle, merci.
De rien.
La minute de l'UFC Que Choisir, c'est le troisième mardi du mois à 7h55, 8h55 et midi 55. Une membre d'une grosse équipe radio, c'est du côté de la Grange aux Parapluies que ça se passe. Florine Siléné, bonjour.
Bonjour Élodie, merci.
La Grange aux Parapluies sur Radio B, ça donne briques et pavés. Alors, ce n'est pas une émission tuto sur comment monter un mur ou rénover sa terrasse. C'est quoi le concept ?
Eh ben, c'est briques et pavés, l'émission qui dégrange. Le concept, c'est de créer une émission qui soit collective, donc qui est créée entre plusieurs bénévoles de la Grange aux Parapluies, qui est donc une association ouverte sur l'art et la culture, sur l'art vivant en particulier, sur Saint-Julien-sur-Essouze. Et c'est de réfléchir à une thématique qu'on va développer dans... On va faire plein de ramifications autour de cette thématique. Ça peut être des chroniques politiques, des chroniques musicales, ça peut être des jeux. Et surtout, l'enjeu, c'est de donner de la voix, donner la possibilité de parler à des gens qui n'ont pas forcément souvent la parole, et notamment du territoire Haute-Bresse.
Vous êtes une équipe pour la production de cette émission. Comment ça se passe, le travail à plusieurs?
c'est juste génial. Donc, c'est une chouette équipe. Donc, on se retrouve une fois par mois pour développer la thématique. Et là, on jette des idées un peu dans tous les sens. On voit aussi ce qui est faisable ou pas. On pense à des personnes. Et puis après, on a tout une période plus de réflexion personnelle et de travail pour justement soit aller faire des interviews, soit s'enquérir d'autres personnes qui pourraient nourrir la thématique. Et puis on se retrouve de nouveau. Tout ça, c'est très festif et autour d'apéro en général. Et là, on passe à la phase plus d'écriture, d'enregistrement, parce que voilà, il arrive qu'on ne puisse pas forcément se déplacer sur Bourg comme on est sur le territoire de Bresse du Nord. Et voilà, donc ça se passe très bien.
Quelles sont les thématiques que vous aimez aborder ? Parce qu'il y a quand même une touche Grange aux Parapluies.
Ouais, tout à fait. Donc, en général, on part soit d'une phrase un peu qui est bien posée ou d'une expression qui permet aussi d'ouvrir plein de perspectives. Là, par exemple, à venir, donc l'émission de ce mercredi sera « Ça coule de source ». Donc voilà, ça peut aussi bien parler de l'eau en elle-même, des problématiques liées à l'eau, mais aussi de cette expression tout simplement « Ça coule de source », est-ce que c'est si évident, etc. On aura une émission autour du rêve, donc on appelle ça Envoi du rêve. Une émission sur décembre, on n'est pas mécontents, ça va s'appeler Cochon d'Inde. Voilà, donc on essaie de trouver des titres accrocheurs qui nous amusent aussi et qui nous permettent derrière de laisser passer, enfin, aller notre imagination et de pouvoir recueillir aussi un maximum de voix d'habitants et d'habitantes.
Il y a aussi une grande importance donnée à la musique dans vos émissions. A priori, on devrait peut-être aussi bientôt retrouver des playlists made in briques et pavés. C'est quel sens pour vous la musique hein? Comment vous allez piocher les artistes que vous diffusez?
Alors, c'est vrai que nous, au niveau de la Grange aux Parapluies, donc on est un lieu, hein, on a un lieu où on peut produire des concerts, des résidences d'artistes. Donc, on a plusieurs dates sur place, notamment sur l'été. Et c'est vrai que voilà, l'association va avoir 10 ans bientôt. Donc, il y a un réseau d'artistes, musiciens, chansonniers, mais aussi de l'art vivant en général qui s'est vraiment développé. Et puis, voilà, on pioche aussi dans les spectacles, dans les concerts qu'on va voir, les festivals auxquels on assiste. Et puis, ça crée de chouettes playlists, quoi.
C'est quoi le rendez-vous pour vous écouter?
Alors, c'est le dernier mercredi du mois à 19h, donc soit ce mercredi-là, et avec une rediffusion le jeudi qui suit à 9h.
Merci Florine.
Merci à toi Élodie.
On écoute à nouveau Perrine qui nous présente Alexandre et ses émissions.
Alexandre, bonjour, vous animez deux émissions. Balade libre qui met en lumière la musique libre de droit et Radio B part en live qui propose une heure de musique live. Pourquoi avez-vous choisi une émission sur la musique live?
Parce que j'aime ça. Déjà, bonjour Perrine.
Bonjour.
J'aime la musique en live et c'est autre chose que les albums. Il y a toujours une réinterprétation de tout ce qui est titre et tout, et l'interaction avec le public. Je trouve qu'on n'en entendait pas assez à la radio, donc c'est pour ça.
En quelques mots, la musique libre de droit, c'est quoi?
En fait, c'est tout ce qui n'est pas... C'est tout ce qui n'est pas protégé par le copyright.
C'est-à-dire?
Que ce soit de la musique, que ce soit des livres, que ce soit des logiciels, des films. Il y a une licence et la plupart du temps, c'est un copyright, on n'a rien le droit de faire. Et moi, je voulais mettre en avant des artistes qui, justement, utilisent d'autres licences que le copyright. Des licences libres, des Creative Commons, etc. Donc, c'est des productions que tout à chacun peut modifier à son bon vouloir, en respectant les droits qui ont été posés.
Donc, ça veut dire que chaque artiste va déterminer ce qu'il est possible de faire ou non avec son morceau ?
Exactement.
Dans vos deux émissions, on peut entendre tous les styles de musique ?
Oui, c'est aussi le but. La musique libre, balade libre, ça regroupe tous les styles de musique. Et je voulais préciser aussi, en plus du copyright, il y a tous les titres qui sont tombés dans le domaine public. Au bout de 50 ou 70 ans, une œuvre n'appartient plus à son artiste, elle tombe dans le domaine public. Et elle devient une œuvre libre.
Et qu'est-ce qui détermine le fait que ce soit 50 ou 70 ans?
Ça, c'est la loi.
Est-ce que vous proposez en ligne la liste des titres qui sont diffusés dans vos émissions?
Oui, elle sera disponible sur les deux pages depuis le site de la radio.
D'accord, donc à retrouver en ligne sur le site de Radio B?
Exactement.
Très bien, je vous remercie Alexandre.
Merci Perrine.
Et on est de retour sur Radio B 90.0 et je retrouve mon collègue Antoine.
Antoine. Je suis de retour. C'est au tour de Jean-Claude Ballet, Alain Rude et Michel Celso de nous rejoindre. Jean-Claude Ballet, bonjour.
Bonjour.
Quelques mots sur votre émission Accordons-nous.
C'est une émission pour ceux qui aiment la guitare. Cet instrument si important dans les musiques populaires, je dirais, depuis un siècle, dont beaucoup de gens qui ont mon âge, c'est-à-dire des vieux, prédisaient sa mort certaine à la fin du XXe siècle et elle a encore de beaux jours devant elle.
La musique a une place particulière dans votre vie. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi?
Bon, c'est ma culture de paysan ouvrier, où à l'époque, si on n'avait pas de culture populaire, on avait du mal à faire autre chose que regarder la télé. Remarquez-moi, je n'avais pas la télé. C'était vite vu, donc moi j'ai été élevé là-dedans avec une tradition de chansons. Beaucoup de chansons en patois, d'ailleurs, par mon père, beaucoup de chansons populaires. Et puis après, naturellement, moi, Bah, j'ai aimé la guitare parce que j'ai aimé voir les photos des guitares en construction de Brassens dans l'atelier Favino de Paris. Et je trouvais que c'était quelque chose de fascinant. En plus, chez les mecs, ça représentait quelque chose de... Il y avait un côté sensuel, une guitare, c'était, voilà, ça attirait. Puis on pouvait essayer d'utiliser ça pour draguer, par exemple. Ça marche ou pas, ça c'est autre chose.
Ça dépend le talent qu'on a à la guitare, quoi. D'ailleurs, vous pratiquez la musique ?
Un peu, oui.
Ouais. La guitare ?
Oui, oui, puis un ensemble vocal, un jour non. Je dis ça au passage.
Un artiste qui ne serait pas passé dans votre émission à partager à nos auditeurs ?
Que je pourrais inviter ?
Que vous pourrez inviter ?
Ah ben Bob Dylan, je vous le dis.
Bob Dylan,
ah,
ouais.
Sans problème.
Facile,
hein.
On a le budget en plus.
Ouais, puis je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, il m'a dit qu'il pouvait venir.
Et non, puis alors dans le genre fermé, à mon avis, ça vraiment pas de personne à inviter.
Ouais, ouais, je crois.
Mais tu l'as jamais passé dans ton émission ? Si, t'as déjà diffusé des titres de Bob Dylan.
Oui, des titres de Dylan, oui, mais lui, je le diffuse jamais, parce que bon, c'est pas un très bon guitariste. Donc, c'est pas ça qui fait son intérêt, quoi.
Il n'y en a pas un que vous avez découvert récemment, que vous avez envie de faire partager à nos auditeurs et auditrices ?
Ben, j'en ai passé un peu la semaine dernière, il y a Black Mills, et puis alors il y en a un qui a beaucoup plu à Elodie, la directrice de la station. Donc je pense que je vais le repasser pour me faire bien voir.
Elodie est directrice, et vous êtes coprésident de Radio B. Un message à faire passer à toute l'équipe pour cette saison qui s'annonce ?
Ça va être terrible.
C'est un joli message.
On est très fort. Non, non, mais je passe mon temps à dire à l'équipe salariée, je ne parle pas des vieux cons comme nous, enfin comme moi surtout, mais l'équipe salariée qui sont très forts et qu'ils n'y croient pas assez, à commencer par Elodie, c'est dommage.
Vous n'êtes pas si vieux, Jean-Claude. Jean-Claude Balem, merci beaucoup. On vous retrouve très vite dans nos oreilles.
Et
pas de souci.
La musique sur Radio B, elle vit aussi le jeudi à partir de 17h15. Difficile de présenter Michel Celso puisqu'il est un symbole de la radio. Et oui, au terminus des prétentieux figure désormais dans les émissions historiques de l'antenne et peut-être bien dans celles des plus écoutées avec sa team d'auditeurs et auditrices fidèles et assidus. 23. Michel Celso, bonsoir.
Bonsoir.
Ah, 23, le score 23, augmente quand même d'année
24.
En année.
Ouais, 23, ouais, ouais, 23. Ouais, ouais.
Bah on les salue, on espère qu'ils écoutent l'émission de rentrée quand même.
Oui.
C'est pas le terminus, mais quand même.
Hein, non, ce sont des fidèles auditrices et auditeurs de Radio B. Ouais, ouais.
Alors, passe le bonjour.
Il y en a plein d'autres en plus.
Au terminus des prétentieux, c'est une émission musicale en direct tous les jeudis soirs avec des invités. Mais pas que. Michel, vous êtes aussi connu pour vos fameux éditos d'introduction, vos jeux de mots franco-espagnols autour du prénom de votre co-animateur et vos références aux classiques de la chanson française et du rock. C'est ça le style Michel Celso ?
Ouais, ouais. C'est la curiosité avant tout, je pense. Mais on garde quand même en arrière tout ce qu'on a aimé quand on était jeune. Ouais, ça ressort dans le morceau culte. Voilà, voilà. Moi, je me fais plaisir dans le morceau culte. Voilà. Là où on ressent vraiment les vieux standards, les vieux morceaux. Enfin, des fois, pas trop vieux d'ailleurs. Des groupes qu'on a aimés, des chanteurs qu'on a aimés. Des chanteuses aussi. Des chanteuses, ouais.
On a envie d'en savoir plus. Comment ça se construit une émission à l'antenne chaque semaine ?
Chaque semaine, bah déjà, le principe de base, c'est les concerts de la semaine. Donc, il faut rechercher les infos pour avoir tous les concerts que je saisis sur un petit tableur chéri. Et puis, la liste des concerts arrivant, je regarde les artistes qui passent. Et ceux qui nous plaisent vraiment, on les diffuse. C'est le principe de base. Donc, à peu près 7 morceaux, le morceau culte, plus à peu près 7 artistes pour à peu près une heure, je dis bien. Hein, des fois, on déborde. Voilà, et puis voilà, le principe c'est ça, et puis les artistes invités, ça dépend de leur actualité, souvent quand ils sortent un album on les invite, et puis voilà, donc ça va de la chanson rock, hard rock, un petit peu le reggae, puis tout ce qui est rock, folk, pop, pas mal lyonnais parce qu'il y a pas mal d'artistes qui sont de Lyon, mais un petit peu des artistes du côté de Mâcon, et puis bon, évidemment de Bourg-en-Bresse, mais malheureusement il n'y en a pas assez à Bourg-en-Bresse.
Et puis ce travail d'écriture quand même, Michel, parce que vous êtes même connu pour votre édito d'introduction du Terminus, il est quand même assez culte cet édito. Comment ça se travaille aussi cette écriture ? Ça vient tout seul ?
Ça vient tout seul. Il faut trouver le sujet, donc, ce qui n'est pas forcément compliqué, parce qu'il y a toujours forcément un sujet qui, à un moment, m'énerve. Voilà, donc, vu que je suis énervé tous les jours, il n'y a pas de souci pour trouver le sujet qui énerve. Et puis après, on brode, on écrit, ça prend, je dirais peut-être... ça dépend les fois, mais entre une demi-heure et une heure, je pense. Une heure pour écrire un petit chapeau de 1 minute 30, ouais. Voilà, voilà. Donc, et également pareil pour les artistes qu'on présente. Ça représente à peu près au moins 4 heures d'écriture par semaine. Ouais, donc des fois, c'est compliqué
de gérer. Travail.
C'est compliqué de gérer les agendas quand le week-end on part en vacances. Oh là là, ça veut dire que le week-end d'après, on va en faire deux fois plus. Voilà. Mais bah, c'est la passion qui l'emporte, donc ça va.
Donc, on peut noter aussi depuis toutes ces années une évolution dans votre émission. En tout cas, moi, je l'ai remarqué. Il y avait les invités traditionnels, ceux qui reviennent chaque saison. On ne citera pas de nom. Mais on voit aussi de plus en plus des nouveaux. Ouais. Des petits jeunes, comme on dit, des artistes qui viennent même parfois de loin quand même. Les Lyonnais viennent jusqu'à Bourg-en-Bresse pour le temps d'une émission.
Ouais.
Ça, c'est une volonté de votre part ? Ou c'est que vous êtes de plus en plus demandé, que le Terminus rayonne
J'ai l'impression que depuis le Covid, c'est peut-être moins maintenant, c'est très, très, très facile de les faire venir. On leur écrit, on leur demande s'ils sont intéressés et tout de suite ils viennent. Avant, c'était plus compliqué. Il y en a pas mal qui nous disaient que c'était trop loin ou c'était trop cher. Là, ils viennent. Voilà. Mais avec la fin du Covid, enfin, depuis quelques mois, c'est peut-être un petit peu plus compliqué à les faire venir. Ouais. Alors, peut-être à cause du prix de l'essence, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Mais il y en a pas mal qui viennent par le train. Et puis, comme ils sont intermittents du spectacle, ça leur coûte pas cher le train.
C'est vrai, on est tous là. On est aujourd'hui à plus de 1000 émissions.
1074 ou 15, mais sans compter les émissions spéciales qu'il y a eu pendant le Covid, sans compter les émissions, sans compter la millième qui n'a jamais eu lieu.
C'est le running gag qui revient souvent au long de l'émission. On en entend parler. Ouais, on ne sait pas si elle arrivera, cette émission.
Je ne suis pas sûr qu'elle arrivera un jour, parce qu'il faut vraiment trouver pour la millième. Alors, à l'époque, ça devait être une émission en direct de la tannerie. Mais comme c'était en septembre 2020, et on avait droit qu'à l'époque à un seul artiste en direct, et moi j'en voulais au moins trois, donc j'ai pas voulu. Puis depuis, je ne sais pas quoi faire pour que la millième soit vraiment une émission... L'émission culte, l'émission qui marque, mais c'est impossible. Donc, en fait, on va faire une émission normale, finalement.
Peut-être ne faut-il pas faire la millième.
Non, peut-être qu'on ne la fera jamais.
Et puis, il n'y a pas que la musique qui vous anime, c'est peut-être l'approche de la retraite là, qui aide. Vous lisez de plus en plus, Michel.
C'est vrai.
Partagez aussi vos coups de cœur et vos rencontres avec certains écrivains du coin.
Ben pour l'instant, c'est assez, c'est moins souvent que les artistes musicaux, mais de plus en plus. Alors bon, peut-être plus dans un genre le polar ou le roman policier. Après, je me suis aperçu de plus en plus qu'il y a plein d'auteurs et d'autrices qui écrivent des polars et qui écrivent des romans sur le coin de Bourg-en-Bresse. Donc, on a fait la connaissance de Nicolaï, Robert Ferrari, même s'il est plus connu. Une dame qui est originaire de Lyon qui s'appelle Cécile Baudin. Et puis prochainement, une animatrice de Radio B, Mathilde
Duchossal.
Voilà, donc il vient d'écrire un bouquin. Et puis je vais forcément l'inviter. J'ai commencé à le lire. Je pense que je vais le lire jusqu'au bout et puis je vais l'inviter. Ouais, je le recommande.
Je pense que ça lui fera plaisir si elle nous écoute. Puis, on lui fait à nouveau un petit coucou.
Puis il y a plein d'auteurs. C'est vrai que c'est grâce à un orage que je me suis mis. J'ai coupé ma télévision carrément. J'ai vraiment coupé la télévision et j'ai pris les livres. Voilà, non, mais c'est fou. Hein.
C'est pas l'approche de la retraite.
Non. Non, mais donc lire de plus en plus, ouais, c'est devenu une deuxième passion. Et c'est dur de concilier à la fois la radio musicalement et la radio au niveau littérature. Ouais. Ça fait des trucs. En fait, moi qui voulais faire moins de choses, j'en fais encore plus. C'est compliqué.
Et on ne dit pas que vous êtes trésorier de l'association.
Non, pas du tout.
On ne le dit pas ce soir.
Non.
Michel Celso, merci. Le Terminus des prétentieux, c'est le jeudi à 17h.
15
et rediffusion le vendredi
à 9h, la sacro-sainte selon Cyril, et le samedi à 14h.
Merci Michel.
Voilà. Sans compter l'artiste de la semaine aussi, j'ai pas dit l'artiste de la semaine.
On n'a pas parlé de l'artiste de la
semaine. Ça fait 21 ans qu'elle existe.
Trop de choses dans cette radio.
21 ans quand même, pas mal. Voilà.
Merci Michel.
Mais merci Antoine.
Alain Rude, bonjour.
Bonjour.
Vous animez l'émission Le nez dans le guidon. De quoi parle votre émission pour les rares auditeurs qui ne vous connaissent pas ?
J'allais dire bicyclette, vélo et cyclisme, puisque, c'était parti sur histoire de parler du sport cyclisme, mais le cyclisme, ce n'est pas uniquement la compétition, il y a plein de choses autour, d'autant plus actuellement, depuis quelques années, on a des pistes cyclables à Bourg-en-Bresse, par exemple, on voit de plus en plus de gens. Et puis, on a aussi des gens qui font, des personnes qui font des choses extraordinaires. Hein. Dernièrement, on avait un jeune qui fait ce qu'on appelle de l'ultracyclisme, un peu des fêlés, quoi, qui font des... Ils vont courir sur 48 heures en dormant 2 heures, des choses comme ça. Le vélo, c'est... Oui, on a commencé en parlant un petit peu de toutes les activités, parce que contrairement aux autres sports, le cyclisme, c'est plein de choses. C'est pas uniquement le Tour de France, le cyclisme sur route, c'est le cyclocross, c'est le VTT, c'est le BMX, c'est la piste, c'est plein de choses. Le gravel, maintenant, qui est une nouvelle activité.
Mmh. C'est quoi, le gravel ?
Le gravel, c'est un petit peu un mélange de VTT, de... un peu de tout, de cyclocross. C'est des vélos qui sont un petit peu spéciaux. Et on va partout, on passe partout. Avec un peu plus... Oui, ça ressemble au VTT, mais
c'est entre
le VTT, la route et le cyclocross. Et c'est à la mode, quoi. C'est difficile, donc c'est à la mode. C'est un peu comme le trail pour les courses à pied, quoi, les courses pédestres.
D'accord.
Il y a un côté mode.
Je vous promets rien, mais j'essaierai quand même.
Il faut. Ouais. Quand vous êtes jeune, mon cher Antoine.
Plus tant que ça, vous savez. Du coup, ça revient à ce que je voulais vous dire. Le cyclisme sous toutes ses formes, professionnel, amateur, moyen de transport ou hobby, vous allez sur tous les chemins du vélo. Vous êtes finalement le VTT de Radio B.
Oui, on peut dire ça.
Quelle place, vous, personnellement, a le vélo dans votre vie ?
Oh là là.
Question compliquée.
Non, compliquée, mais simplement, quand j'ai été jeune, il y a très 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 longtemps, personne ne s'en souvient, mais j'aurais aimé faire du vélo de compétition et mon père m'a toujours interdit. Alors il y a eu un blocage, donc je m'y suis intéressé d'une autre manière et j'ai suivi tout ça, quoi.
Sans en faire, alors.
Oui. Moi, j'ai un souvenir d'école. Mon premier idole, c'était Éric de Vlamin, qui, à mes yeux, est le plus grand cyclocrossman de l'histoire. Dans notre village, il y avait une télé. On suivait des cours à la télé parfois. Et puis, je ne sais plus pourquoi, ce dimanche-là, on avait eu l'autorisation de suivre le championnat du monde. Ça fait le déclic. Et puis, j'avais des oncles qui suivaient à la radio le Tour de France. J'étais tout petit en 1967. Mais bon, Roger Pinjon, c'était un gadelin qui gagnait. Donc, ils m'ont presque mis sur le vélo, mes tontons.
Ok. Sacré tonton. Un invité ou une émission qui vous a marqué ?
Il y en a plusieurs, mais disons, au niveau de l'affection, je vais dire, c'est Florian Grangbeau quand même. Florian Grangbeau, c'est un gamin qui a commencé le vélo à 5 ans à l'école de cyclisme de Bourg-en-Bresse. On l'a vu progresser sur piste alors qu'on n'a pas de piste dans l'Ain, on n'a pas de piste dans la région. Je l'ai vu devenir champion d'Europe par équipe en junior, champion du monde. Ça se passait à Aigle, en Suisse. Alors là, moi, je sortais de l'hôpital. Donc c'était vraiment une sacrée thérapie. Et puis bon, ensuite, aux Jeux Olympiques de Tokyo, médaille de bronze avec ses copains. Médaille d'argent au championnat du monde un peu plus tard. Donc, sentimentalement, c'est l'émission qui m'a vraiment fait chaud au cœur. Et puis les JO de Paris, c'est bientôt. Donc franchement, on y croit fort.
On y croit tous. Alain Rude, merci. On peut vous entendre les premiers vendredis de chaque mois à 7h30, 8h30 et 12h30. Et en rediffusion le dimanche qui suit à 12h15. A bientôt sur les pistes cyclables du département, Alain.
Merci.
Merci à vous.
Bonjour à tous, c'est Camille, présentateur de l'émission Banshibits, votre émission musicale mensuelle centrée autour d'un thème dans laquelle je vous propose des titres de tous horizons musicaux. Et nouveauté cette saison, un mois sur deux sera consacré à la musique de jeux vidéo. Banshibits, c'est le deuxième lundi du mois, à 19h, dès maintenant sur radio-b.fr.
Dis-moi, comment étaient la Bresse et Bourg autrefois ?
Des réponses dans Chroniques du passé, sur Radio B, 90 FM, le deuxième mercredi du mois, à 7h30, 8h30, et 12h30.
Rémi Riche et ses complices des chroniques de Bresse évoquent des portraits, des monuments, des événements au cours du temps.
Retrouvez Le Taureau par les cornes, la chronique sur l'agriculture paysanne par les paysans et paysannes pour tout le monde. Venez en apprendre davantage sur les politiques et les techniques agricoles ainsi que sur les luttes paysannes. Rendez-vous le premier mardi du mois à 7h30, 8h30 et 12h30 sur Radio B. Une émission proposée par la Confédération paysanne de l'Ain.
Le premier et le troisième mardi du mois, de 20h à 21h, retrouvez votre émission musicale et culturelle Ultrasonore. Amis auditeurs et auditrices, passez en mode défricheur et découvrez avec nous les artistes de la scène alternative.
Ultrasonore, c'est le premier et le troisième mardi du mois à 20h sur Radio B et retrouvez l'émission en podcast et sur Facebook.
Gaëlle Heureux, bonjour.
Bonjour.
On vous connaît à Radio B pour vos émissions Encore Heureux, mais cette saison, vous revenez avec un nouveau format, les décroissants tout chauds. Vous allez nous parler de quoi ?
Alors, je vais vous parler dans cette émission, cette nouvelle émission, de la crise écologique, en fait. La crise écologique et donc pas seulement du climat, aussi de la raréfaction des énergies fossiles, de la perte de la biodiversité, des choses réjouissantes. Et de ce qui, bien modestement, me semble une des solutions, entre guillemets, possibles, qui est la décroissance. On l'appelle aussi parfois la sobriété, bien que ce ne soit pas tout à fait pareil. La décroissance étant quand même un peu plus engageant. Voilà l'idée. Et puis, peut-être aussi un peu de minimalisme.
Et du coup, quand même, l'idée, c'est de garder le lien avec le livre. On a toujours un livre sous le coude.
Oui, c'est ça. En fait, je choisis des extraits de livres qui paraissent sur ces sujets-là. Il y en a beaucoup, en fait. Il y en a énormément, même. Il y en a plein les rayons de la bibliothèque. Donc, je pioche et puis je réécris un petit peu. J'essaye de vulgariser certains passages.
Voilà. C'est un petit peu comme des petites fiches de lecture que vous pourriez nous faire pour, par exemple, une maman qui n'a pas le temps de lire.
Oui, ou un papa qui n'a pas le temps de lire.
Je me prenais comme exemple, Gaëlle, bien sûr, que les papas peuvent lire.
Oui, everybody. Voilà.
Donc la première, elle est déjà passée, cette première émission.
Oui, donc j'ai lu Le grand livre du climat, qui est un livre qui a été écrit sous la direction de Greta Thunberg. Ce qu'on dit Thunberg. Thunberg.
Ok.
Voilà. J'ai fait l'erreur de dire Thunberg.
Oui, quelqu'un là, tout le monde dit ça.
Voilà, tout le monde dit ça. Attention. Comme tout le monde disait Thatcher, alors que c'était Thatcher.
Ok.
Bon, bref.
Bon, tout le monde n'a pas fait.
Greta Thunberg.
Les langues
Thunberg. Oh, je vais y arriver. Et donc, c'est un livre assez. C'est un gros bouquin avec plein de textes, de plein de scientifiques du monde entier. Donc, c'est passionnant.
Est-ce qu'on a déjà une idée de la thématique de la prochaine émission ?
Alors, j'y réfléchis tout à l'heure parce que je me suis dit, je suis sûre qu'on va me poser cette question.
Bravo, Gaëlle.
Alors, je pense que ça va être un peu un défi. Je vais sans doute parler de la BD qui s'est le plus vendue l'année dernière et même le livre qui s'est le plus vendu l'année dernière à plus de 300 000 exemplaires, je crois. Battant largement Amélie Nothomb, c'est le livre de Jean-Marc Jancovici, la BD plus exactement de Jean-Marc Jancovici qu'il a écrit avec Christophe Blain, le dessinateur. Donc ils ont fait, ça s'appelle Un monde sans fin, je crois, pas me tromper, Un monde sans fin. Et ça parle de la crise écologique, de la raréfaction des ressources en pétrole, en gaz, en charbon, des gaz à effet de serre, tout ça.
Les différents animateurs et animatrices qui ont partagé le micro ce soir nous ont donné parfois les secrets de fabrication de leur émission. Une émission comme la vôtre, comment ça se fabrique ? Comment on fait passer le livre ou la BD même à l'antenne ?
Alors, moi, c'est très simple, en fait. Je lis, donc je ne suis pas du tout spécialiste, absolument pas. J'ai plein de choses à découvrir moi-même, à apprendre. Donc, ça se fait très simplement. J'ai un livre qui m'intéresse, que je trouve passionnant, que j'ai envie de faire partager, découvrir. Et puis après, je le travaille. Comme je disais tout à l'heure, j'essaye de couper un petit peu certains passages, de reconfigurer tout ça. Et puis, voilà.
Quand est-ce qu'est diffusé Les décroissants
tout chaud, c'est le deuxième mercredi du mois et le dimanche qui suit à 14h.
Merci Gaëlle.
Voilà.
Charlotte Lombard, bonjour.
Bonjour, enfin rebonjour.
Rebonjour Charlotte. Vous animez toutes les semaines le carnet. Expliquez à nos auditeurs, c'est quoi ce carnet ?
Alors, le carnet, c'est l'agenda sorti des événements donc de la semaine sur la Bresse et la Dombes.
Vous êtes salarié de Radio B. Décrivez-nous la semaine type de l'animatrice du carnet.
Alors, on va dire que la première moitié de semaine, c'est de l'administratif et de la recherche d'événements, puisqu'il faut savoir de quoi on va parler. Et la deuxième moitié de la semaine, c'est écrire l'émission et bien sûr, le bon moment, l'enregistrer pour pouvoir la diffuser.
Comment trouvez-vous toutes ces informations ?
Alors, il y a une partie où c'est les organisations, enfin les associations et structures qui me contactent directement. Et une partie où c'est moi qui fais les démarches d'aller les contacter pour savoir s'ils veulent promouvoir l'événement.
Si des auditeurs nous écoutent et ont un événement à partager, quelle démarche doivent-ils ou elles engager pour passer sur nos ondes ?
Alors, c'est assez facile, il suffit de nous appeler donc à Radio B. C'est le 04 69 19 55 27. Ou alors, ils peuvent m'envoyer un mail à développement@radio-b.fr.
Et la question qui brûle la bouche de tous les auditeurs et auditrices, est-ce que c'est gratuit pour passer notre carnet ?
Malheureusement non, c'est pas gratuit, mais après on n'est pas très très cher. Donc je rappelle que le carnet est diffusé du samedi au vendredi, 5 fois par jour, donc ça fait 35 diffusions. Pour une association, une petite association sans salariés, c'est 50 euros. Pour une plus grosse association avec des salariés, c'est 80 euros. Et pour une entreprise ou une collectivité, c'est 100 euros. Donc ça fait ce prix-là pour 35 diffusions sur la radio.
Ce qui est quasiment donné, finalement.
Bon, on n'est pas très très cher par rapport à certains.
Alors, on me dit dans l'oreillette que vous avez un co-animateur, mais qui est-il ?
Oui, en effet, j'ai un co-animateur qui m'aide beaucoup pour les émissions, c'est Jimmy Franqui.
Bonjour.
Bonjour Jimmy.
Bonjour Antoine.
Alors Jimmy, une question me taraude. Quel est ton rôle à Radio B ?
Alors, à Radio B, je fais plusieurs choses. Donc moi, je suis technicien du son. Donc je fais déjà tout ce qui est en rapport à ça. Donc ça consiste à enregistrer avec les bénévoles leur émission dans le studio, à faire du montage audio, puis après à veiller à ce que leur émission soit diffusée. Donc pour les auditeurs qui ne sont pas là, ben, imaginez qu'il y a un logiciel spécifique à la radio où il y a plein d'options dessus, et il y a un grand calendrier dedans. Et dans ce calendrier, je mets les émissions qu'on a enregistrées comme ça. On n'a pas besoin d'être là pour qu'elles soient diffusées. Puis à côté de ça, je fais des ateliers. Donc je vais dans des ateliers d'animation. Donc je vais dans les écoles et je fais faire une émission de radio à des enfants. Des petits-enfants qui ont entre 7 et 10 ans pour la plupart. Des fois, c'est des plus âgés, des collégiens ou lycéens, mais surtout avec les petits. Et je leur fais faire leur propre émission de radio. Donc, ils adorent. À cet âge-là, ça crie, ça saute partout. Du coup, on le focalise sur un truc et hop, ils parlent. Et comme on vient de le dire, je fais le carnet avec Charlotte.
Vous êtes bien occupé, du coup ?
Ah bah oui, mais il faut bien ça. Hein.
Vous arrivez à dormir, quand même ?
Oui.
Ouais. Pas au travail. Pas au travail, j'espère.
Pas avec les enfants.
La directrice est présente, donc on va éviter les bourdes, Jimmy. Hein ? Une petite anecdote amusante qui vous est arrivée en régie.
Ah, en régie ? Mmh. Alors, moi, il y a souvent des stagiaires qui viennent faire le stage à Radio B, souvent des stages de 3e. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Bah, on les met dans le carnet avec Charlotte. Du coup, ils préparent leur texte et ils le lisent. Alors, c'est marrant qu'ils le lisent. On fait un peu du coaching vocal pour qu'ils le prononcent bien. Et il y a toutes sortes de tons et de personnalités. Il y en a une fois, il faisait un truc un peu hip-hop, un peu vénère, en fait. Sauf que c'était un truc de science d'Altec, je crois, et du coup ça avait rien à voir avec du hip-hop, et c'était hyper vénère, c'était... Et du coup, le coaché, c'était assez rigolo, et il s'est amélioré par le biais de nos conseils.
Je rappelle d'ailleurs qu'on reçoit des stagiaires de collège ou lycée, donc n'hésitez pas à nous écrire, on est très gentils, et on les reçoit bien volontiers.
Charlotte et Jimmy, merci pour ces informations, bonne fin de soirée à vous.
Bah, merci beaucoup, bonne soirée.
Au revoir.
Au revoir.
L'un dans l'autre,
l'info qui vous engage.
Animé par
Perrine
et Antoine.
Et puis Antoine, vous serez aussi à l'antenne, on vient de l'entendre, c'est le générique du nouveau magazine d'info, L'un dans l'autre. Dites-nous tout, Antoine.
Alors oui, avec ma collègue Perrine, qui n'est pas là ce soir, mais que vous avez pu entendre sur différentes interviews, on monte une émission d'information, plutôt locale et plutôt alternative. Le but, c'est pas de vous donner les informations classiques qu'on peut trouver dans les médias, on va dire mainstream. C'est d'essayer de sortir des informations sur des initiatives locales qui, qui donnent du baume au cœur, qui font avancer notre société, qui font avancer un petit peu ce monde.
Merci pour ces informations. Et ça commence à partir de quand ?
Alors, ça commence à partir du 2 octobre. Et ça sera diffusé tous les lundis à 18h avec une rediffusion le mardi à 9h, le vendredi à 11h et le samedi à 9h aussi.
Merci pour ces infos. À noter aussi l'émission « Il n'y a pas que le 8 mars » qui reprend, animée par le collectif féministe de Bourg-en-Bresse. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver dans cette émission. On abordera une fois par mois des sujets féministes. La prochaine se posera la question de l'égalité filles-garçons à l'école. Donc rendez-vous le 20 octobre à 18h sur Radio B. Et puis aussi une information pour nos auditeurs et auditrices, Radio B participe à la fête de la science. Donc deux rendez-vous à noter, le jeudi 12 octobre à 18h, émission complètement improbable, puisqu'on sera en direct de la salle de sport Keep Cool, rue du Stand, à côté d'un supermarché à Bourg. Donc pour une émission autour du sport, puisque la thématique de la fête de la science cette année, c'est science et sport. Donc voilà, on sera au milieu des vélos de course et des personnes en train de faire le sport pour parler des corps, de la représentation des corps dans le monde du sport. Et puis également, nous serons présents Radio B, le studio, le samedi 14 octobre à partir de 14h au Village des Sciences à Alimentac. Alors attention, ils déménagent. Hein. Vous aviez peut-être l'habitude de faire la fête de la science à la Maison de la Culture. On retrouve les anciens locaux d'Altec et on sera donc à Alimentac le samedi 14 octobre à partir de 14h. L'occasion pour vous de pouvoir tester le micro radio. Merci à toutes et à tous pour cette émission. Merci Antoine.
Merci à toi Élodie.
Bravo pour ce baptême du feu.
Merci pour la confiance.
Merci à Jimmy à la technique. Et merci à vous pour votre écoute. Restez branchés sur Radio B, les bonnes ondes.